Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Xavier Yvon. Aujourd'hui, je vous propose cet épisode de La Loupe diffusé une première fois en février dernier. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Quand vous achetez un vêtement ou un aliment, pour savoir d'où il vient, c'est facile, il suffit de regarder sur l'étiquette ou sur l'emballage. Mais avant de le prendre, avez-vous déjà cherché à savoir où avait été fabriqué un médicament ? J'ai testé chez moi, je suis allé vider l'armoire à pharmacie et j'ai regardé sur les boîtes. Une par une. Rien. Aucun made in quelque part. Et sur les notices, parfois une vague adresse de fabricant, mais ça ne mène pas très loin. J'ai vérifié, la loi ne l'oblige pas, mais si ça avait été le cas, ça aurait peut-être pu nous alerter.
L'épidémie de coronavirus en Chine va-t-elle causer une pénurie de médicaments dans les pharmacies françaises ? C'est une inquiétude des autorités sanitaires.
J'ai des angoisses en me disant qu'est-ce que je vais devenir. Sans médicaments, je ne peux pas vivre, je ne pourrai plus bouger, rien du tout.
Dans cette pharmacie parisienne, certains médicaments manquent à l'appel. Tous les jours ici, l'informatique relève une liste d'une vingtaine de produits introuvables.
Antalgiques, antibiotiques ou traitements contre le cancer, la plupart de ces médicaments sont fabriqués ailleurs. Et quand le monde s'arrête, la pénurie guette. Comment faire pour reprendre le contrôle et ne plus jamais en manquer ? C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez qu'elle, elle est Made in Limoges. Salut Béatrice.
Salut Xavier.
Béatrice Mathieu, rédactrice en chef du service économie de l'Express. Tu regardes, toi, l'origine des médicaments avant de les prendre ?
Mais non, jamais.
Voilà, comme tout le monde. Il y a quelques jours, Béatrice, tu t'es rendue à Porcheville dans les Yvelines. Là-bas, tu as enfilé une blouse, une charlotte et un casque. Et pour quoi faire ?
Pour visiter le centre de R&D d'un nouveau leader de la pharmacie française. Alors, on ne le connaît pas, hein, personne ne le connaît. Il s'appelle Séquence. Mm-hmm. C'est un laboratoire d'un nouveau type. En fait, c'est un sous-traitant. C'est comme si un peu j'allais visiter ceux qui fabriquent les t-shirts qui sont vendus dans les magasins Zara. Là, j'ai été visiter le laboratoire de recherche de ceux qui fabriquent des molécules qui seront après utilisés par des grands laboratoires qui vendent leurs produits comme Sanofi, AstraZeneca ou Pfizer. Et donc, c'est un laboratoire qui est un peu planté dans une zone un peu nulle part, en fait. Mmh. Quand on se balade le long de la Seine, on voit en fait une succession d'ateliers fermés, d'anciennes carrières de sable. Et puis là, entre un Lidl, une usine d'un Le Pilot, il y a ce centre de recherche un peu dans un environnement où on n'imagine pas trouver énormément de technologies. On rentre dans un univers très, très sécurisé, où il y a d'un côté les laboratoires de recherche avec les paillasses et où vous voyez des ingénieurs et des doctorants en fait, qui travaillent sur la fabrication, sur les recettes de ces fameuses molécules. Et puis, vous avez des sortes de mini-usines qui testent en fait, ce qui est imaginé dans les tubes et les flacons des chercheurs.
Et dans ces tubes et ces flacons, les chercheurs de pointe que tu décris, ils travaillent sur quoi exactement ?
Eh bien, une nouvelle recette du paracétamol.
Du paracétamol. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Du paracétamol, celui pour faire le doliprane ou le dafalgan.
Oui, la petite boîte jaune, voilà. Le paracétamol. Mais oui, parce qu'en fait, la France, ça fait près d'une décennie qu'elle n'a plus d'usine sur son territoire de production de paracétamol. Et c'est pas le seul de ses principes actifs qu'on ne produit plus, parce qu'on sait qu'entre 80 et 90% des principes actifs viennent aujourd'hui du sud-est asiatique, essentiellement de l'Inde et de Chine.
Béatrice, un principe actif, tu nous rappelles ce que c'est ?
Alors, le principe actif, c'est la molécule qui va vous soigner. Et donc, ce principe actif, il est fait avec des fois des dizaines, voire des centaines de matières premières en amont. On assemble tout ça. C'est de la cuisine, hein, finalement, de la chimie fine. C'est rien que de la cuisine. On mélange, on chauffe, on refroidit, on filtre, etc. pour arriver à fabriquer une poudre. Et cette poudre, elle sera mélangée avec un excipient qui nous donnera le fameux cachet ou le sirop ou le suppositoire.
Merci Béatrice, c'est aussi clair quand tu parles de science que d'économie. Alors je vais ranger cette définition dans l'armoire, non pas pharmacie, mais celle de la loupe. Voilà, je referme et on reprend. Tu nous faisais un état des lieux pas très reluisant de la fabrication de médicaments en France.
Mais oui, c'est un peu un des grands renoncements français. Il y en a eu beaucoup dans l'industrie au cours de ces dernières années. La France était un leader européen, même mondial, du médicament. On était, il y a 10 ans, le premier producteur européen de médicaments. On est maintenant au niveau 5e ou 6e, très loin derrière l'Allemagne, derrière l'Irlande, l'Italie ou la Suisse. Et puis, même en termes d'exportation, on a régressé. Et puis alors, sur les nouveaux médicaments, là aussi, on n'est pas loin de sortir des radars. Sur l'année 2019, sur les 61 nouveaux médicaments qui ont été autorisés par les autorités européennes, il y en a 5 qui venaient de France, 10 d'Italie, 15 d'Irlande et 20 d'Allemagne.
Béatrice, on a besoin de comprendre comment on a pu en arriver à ne plus produire ou presque de médicaments en France.
Il faut faire de l'archéologie économique. Il faut revenir au début, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Mmh. Là, qu'est-ce qui se passe ? On avait des grands laboratoires. On peut prendre l'exemple de Sanofi, qui était vraiment qui illustre parfaitement ce qui s'est passé, qui vivait très bien, même très, très bien, protégés par leurs brevets. En fait, quand vous avez des brevets, vous ne pouvez pas être copié. Donc, ils vivaient très bien, ils avaient de juteux bénéfices. Et puis là, dans le secteur de la pharmacie, on appelle la falaise des brevets. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre brevet tombe dans le domaine public et vous avez des fabricants de génériques, on appelle les génériqueurs, en fait, qui s'en emparent et qui font la même molécule que vous et qui, en général, la font beaucoup moins cher. Donc, les laboratoires, et c'est vraiment encore le cas de Sanofi, ont été confrontés à cette falaise de brevets. Et en l'espace de 2 ans, 3 ans, il y a quasiment des fois 50 à 60% de leur chiffre d'affaires finalement qui est tombé dans le domaine de la concurrence. Alors, il y avait des petits malins qui anticipaient cette falaise de brevets, et des génériqueurs, et qui avaient dit « nous, on commence à travailler avec des sous-traitants indiens qui savent faire ça, ou chinois, et dès que les brevets sont tombés, il y a des grands directeurs de labos qui nous ont dit « mais on avait des camions qui étaient déjà aux frontières, et avec des médicaments génériques qui arrivaient ».
Et c'est donc comme ça, Béatrice, que l'Asie a commencé à devenir l'usine à médicaments du monde.
Oui, mais pas que, parce qu'il faut aussi qu'on balaye un peu devant notre porte. Ce qui s'est passé, c'est que quand les brevets de ces grands labos sont tombés, les gouvernements qui étaient là se sont dit « on va baisser le prix des médicaments ». Il faut voir que le prix du médicament, ce n'est pas comme le t-shirt ou la baguette du boulanger. Mmh. Ils ne sont pas fixés par le marché, par la confrontation entre l'offre et la demande. L'État, tous les ans, il y a un comité en fait, interministériel qui décide du prix des médicaments. Et là, comme il y avait aussi la pression de « il faut renflouer le trou de la sécu », on avait les fameux critères de Maastricht à respecter, donc on s'est dit « on va peser sur les prix des médicaments pour qu'il y ait moins de déficit de la sécurité sociale ». Donc, au fur et à mesure, les prix de ces médicaments dont les brevets étaient tombés sont devenus de moins en moins chers. Donc, les laboratoires se sont trouvés là confrontés à un effet de ciseaux. D'un côté, ils avaient des concurrents qui arrivaient avec des coûts de production imbattables parce qu'ils fabriquaient en Asie. Et de l'autre côté, eux, on leur disait il faut que vous vendiez de moins en moins cher vos médicaments. Là, la solution, ils se sont dit, nous, on va faire comme les autres. C'est-à-dire, soit on va produire là-bas où ça ne coûte pas cher pour produire, essentiellement en Inde et en Chine, soit on fait appel à des sous-traitants qui sont là-bas. Donc, c'est pour ça qu'en une décennie, entre 10 et 15 ans, finalement, on s'est retrouvé totalement dans la main de ces sous-traitants indiens. Et pendant toutes ces années, les experts ont tiré la sonnette d'alarme sans jamais être entendus. Jusqu'au moment où on a eu la pandémie.
Et avec la pandémie, tout le monde a enfin pris conscience du problème, jusqu'au plus haut sommet de l'État.
Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. On pourra, par exemple, reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France.
Du paracétamol produit en France. Tiens, tiens, voilà qui nous ramène à ton laboratoire du début, Béatrice. Il est temps de retourner voir comment celui-ci compte fabriquer du paracétamol aussi bon marché qu'en Asie.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous sommes aussi compétitifs qu'en Chine, c'est vraiment un prérequis de nos clients.
Je vous présente Gildas Barrère, le secrétaire général de Sequence, l'entreprise qui fabriquera bientôt du paracétamol bleu-blanc-rouge, et ça pour les mêmes coûts qu'en Chine, grâce, dit-il, à l'innovation.
On cherche le bon procédé de production, celui qui sera le plus productif, donc avec les meilleurs rendements, celui qui sera le moins consommateur d'énergie, et celui qui sera le plus automatisé pour être certain d'avoir à la fin une production compétitive.
Oui, effectivement, les ingénieurs que j'ai rencontrés là-bas travaillent dans le plus grand secret. J'ai même pas pu emmener mon portable. Moi, j'avais envie de faire des photos pour pouvoir illustrer mon papier. C'était pas possible d'emmener le portable à la fois dans l'usine pilote, hein, mais aussi dans les laboratoires, parce que c'est cette recette et c'est le procédé industriel et la composition un peu du paracétamol qui fait qu'ils vont garder cet avantage compétitif par rapport à leurs concurrents asiatiques.
Et grâce à cette formule secrète, Sequence espère d'ici 3 ans produire le fameux paracétamol français voulu par Emmanuel Macron.
On a un objectif de production à 10 000 tonnes par an dès l'année 2025.
Et 10 000 tonnes, ça fait combien de cachets de paracétamol ?
Alors, dans une tablette de paracétamol, il y a 8 grammes. Donc, il faudrait que je fasse le calcul là, mais grosso modo... Attendez, je vais vous dire. Laissez-moi juste prendre mon Excel. Alors, 10 000 tonnes, ça fait... Hop. Voilà, donc l'unité fera 10 000 tonnes de production de principe actif paracétamol par an, ce qui correspond à peu près à 1,25 milliard de tablettes de 8 grammes de paracétamol, qui sont donc made in France.
On ajoutera peut-être alors des petits drapeaux français sur les boîtes de Doliprane ou d'Efferalgan. Faut-il pour autant crier cocorico, Béatrice ?
Mais non, pas complètement. Alors, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Il faut voir que Sequence travaille sur le paracétamol, mais aussi 12 autres principes actifs. Et notamment, il travaille aussi sur des molécules qui pourraient être des futures pilules anti-Covid. Mmh. Le problème, c'est qu'ils ont des soucis de main-d'œuvre, comme toute l'industrie française. Alors, ils n'ont pas trop de soucis pour attirer des docteurs ou des ingénieurs. Eux, c'est plutôt des ouvriers, des techniciens spécialisés. Et là, c'est très, très compliqué, malgré des salaires qui sont très intéressants pour l'industrie.
Mais cet exemple de relocalisation ne peut pas servir de modèle pour d'autres médicaments ?
Si, ça va servir de modèle. Mais aujourd'hui, on estime qu'on a entre 200 et 300 principes actifs, molécules qui sont critiques, c'est-à-dire dont l'approvisionnement est un peu en danger. Donc, on ne va pas pouvoir rapatrier et créer des usines pour ces 200 à 300 molécules. Donc, il va falloir réfléchir autrement. Et la question du coût de production et de l'innovation est très importante parce qu'on sait qu'en moyenne, une usine asiatique fabrique à des coûts 30 à 40% inférieurs à ceux de l'Europe. Et notamment parce qu'ils n'ont pas les mêmes critères environnementaux.
Et pour ces autres médicaments, Gildas Barrère reconnaît justement qu'il faudra accepter de payer plus cher, en tout cas au début.
Effectivement, là où l'innovation ne pourra pas tout faire, ça va forcément se traduire par des hausses de coûts. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que la sécurité d'approvisionnement et le respect de l'environnement sont des coûts cachés. C'est-à-dire que vous ne le payez pas tout de suite, mais vous le paierez demain. Vous le paierez demain soit parce que vous devrez gérer une pénurie, ça c'est la sécurité d'approvisionnement, ou vous le paierez demain parce que, quelque part, un jour ou l'autre, la Chine et l'Inde, et la Chine avait commencé avec le programme Blue Sky, arrêteront de produire à ces niveaux d'environnement. Et donc, eux vont augmenter leur prix parce qu'eux vont prendre en compte les critères environnementaux. Donc, nous, tout ce qu'on dit, c'est que oui, ça a l'air d'être un surcoût à l'instant T0 quand l'innovation ne peut pas tout faire. Mais clairement, sur le long terme, c'est rentable.
Et oui, on en revient au débat tabou, c'est celui du prix du médicament. Alors là, il y a une avancée en fait, puisque dans le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement a inscrit dans la loi que lorsque ce fameux comité se réunira, il pourra prendre en compte dans la fixation du prix du médicament la localisation, le site de production. Effectivement, on pourra dire bah, si c'est fabriqué en France, eh ben, on peut accepter que le prix du médicament soit un peu plus élevé.
Et si la relocalisation ne suffit pas, Béatrice, quel remède tu préconises pour éviter ces carences de médicaments à l'avenir ?
Alors, ce n'est pas moi qui les préconise, hein, mais c'est aussi les labos qui commencent déjà à réfléchir sur ça. Ils se disent, bon, il y a effectivement la relocalisation, mais il y a aussi sécuriser des sous-traitants qui seraient en Europe. Et pour se dire, bah, pour une molécule, si on a 3 sous-traitants dans le monde, ça serait pas mal d'en avoir 1 ou 2 en Europe. Donc, il y a la sécurisation de ce qu'ils appellent la chaîne de production, la chaîne de valeur. Et puis, bah, il y a des stocks stratégiques. Il y a certaines molécules où on sait que bah, on peut les garder 2 ou 3 ans, mais ça va être très, très long. Et pour ça, il faut analyser molécule par molécule, principe actif par principe actif, démonter en fait toute la chaîne de production, parce que là, je vous parle surtout du principe actif. Mais derrière, il y a aussi toute une chaîne d'approvisionnement des matières premières qui sont utilisées pour fabriquer ce principe actif. Et on sait que pour certains médicaments, bah, c'est 100 voire 200 matières premières. Donc, bah, ça, ça va prendre beaucoup de temps. Ce travail, il a commencé à être fait par certains laboratoires. Il est surtout fait à la Commission de Bruxelles. Mais c'est des mois et des mois de travail très fin et attentif. Et évidemment, ça aura un coût très élevé.
La pilule pourrait donc être difficile à avaler pour le gouvernement et les Français. Merci Béatrice pour cette notice d'explication très claire.
Merci, à bientôt.
Béatrice Mathieu, rédactrice en chef du service économie de l'Express. Ton enquête s'inscrit dans le grand dossier sur la réindustrialisation de la France que je vous invite à aller lire sur notre site internet, l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. Quant à vous, chers auditeurs, si vous vous sentez perdu dans l'actualité, le traitement est tout indiqué. Une dose de Loupe tous les matins dès 6h, garantie fabriquée en France. Prescription à retirer chez votre fournisseur de podcast, Spotify, Apple Podcast ou Deezer par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Nicolas Ayashi, Margot Lanuzel et Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la Loupe.